Merci. Donc on peut voir que les pratiques alternatives qui sont nées il y a 10 ans aujourd'hui évoluent et se posent les questions de comment transmettre tous ces outils et ces expérimentations, ce qui vient bousculer aussi parfois les manières d'apprendre dans les écoles aujourd'hui. Nous, on entend beaucoup de la part des étudiants et des étudiantes qu'il y a une crise d'identité de la profession, qu'on fait ses études, mais que bon, on finira pas en agence, que de toute façon aujourd'hui être architecte, bon, c'est peut-être pas si intéressant. Nous, on continue de croire et d'essayer de mettre en avant le fait qu'il y a 1000 façons d'être architecte, qu'on peut s'intéresser à la question du chantier, à la question des filières, à la question de l'inclusion des usagers dans le projet, de la programmation habitée, d'une tonne de choses qui diversifient le métier et qui, surtout, pourraient permettre de continuer à lui donner une vocation d'utilité publique et un rôle politique. Donc, pour la deuxième partie, on voulait inviter des collectifs et des groupes qu'on ne connaît pas tous encore. On avait pensé d'abord inviter nos amis, les autres collectifs, mais on s'est dit que c'était plus intéressant d'inviter d'autres personnes, parfois plus jeunes aussi, parfois encore étudiantes, pour leur donner une parole et une voix aussi et écouter ce que vous avez à nous dire. Du coup, je vous invite à nous rejoindre ici. Donc, avant de répondre aux questions, on s'était dit que ce serait bien que vous vous présentiez rapidement pour que les gens sachent qui vous êtes.
Bonsoir à tous. Donc Candice, je représente aujourd'hui le collectif École Zéro, avec aussi Caroline et Clément, qui sont venus ce soir avec moi. Le collectif École Zéro, je vais être assez brève. C'est un collectif qui est né en 2020, aujourd'hui dont l'objet qui a été créé par des étudiants de Malaquais et dont l'objet principal est de s'interroger sur comment faire école collectivement, différemment, en essayant de sortir de l'école et d'aller plutôt dans des territoires aussi hors des métropoles. On va dire l'action principale de ce collectif, c'est vraiment incarné dans les écoles d'été qu'il organise maintenant depuis 3 ans. Donc il y a eu aujourd'hui à peu près 3 éditions. Et le format, rapidement, c'est d'aller sur un territoire qu'on ne connaît pas auparavant pendant une semaine et d'essayer de comprendre ce territoire en comprenant ses ressources, les différents acteurs qu'il constitue et de créer un cadre que les personnes qui organisent et les 50-60 festivaliers qui participent chaque année puissent aussi s'approprier et proposer vraiment aussi des ateliers, des sujets de table ronde. Et ça s'articule un petit peu sur un format atelier, table ronde, partage de moments festifs aussi. Et c'est un peu l'objectif d'être dans cette forme de développement un peu de cadre souple qui s'adapte aussi aux envies et aux besoins de chacun et qui encourage l'expérimentation et l'initiative sans objectif de résultat aucun. Donc on est vraiment là pour expérimenter. Et brièvement pour l'histoire, en fait c'est un collectif qui est né en 2020 en réaction à la démolition d'un des bâtiments de l'ENSA Malaquais, sur lequel reviendra ultérieurement Caroline, et qui a donné naissance en fait à une envie aussi de se poser la question de c'est quoi aujourd'hui faire école, qu'est-ce que c'est d'avoir un bâtiment entier amputé au sein d'une école. Et donc il y a eu un séminaire zéro qui s'est créé et qui pendant 3-4 mois s'est interrogé sur ces questions-là en se réunissant chaque semaine. Et il y a eu le confinement en 2020. Et après ce confinement, la question de faire école et l'envie aussi d'expérimenter à l'échelle 1, hors métropole, et de se retrouver physiquement, a donné naissance en fait à la première école d'été et qui continue du coup aujourd'hui, chaque année. Et on a écrit, Caroline a a édité, enfin s'est occupé en tout cas de cet ouvrage, qui est un ouvrage collectif qui recense justement, donc ça s'appelle Itinéraire d'une école en construction, qui recense un petit peu toute cette aventure de c'est quoi créer un cadre à la fois horizontal qui permet à chacun d'entrer en contact avec le territoire de manière la plus humble possible et d'apprendre voilà, par le faire et de faire école.
Bonjour. Ça marche. Et moi, je m'appelle Thibaut, et en fait, pour présenter Reprise Savoir, je vais vous poser des questions. Alors, le jeu, c'est simple. Hein. Si c'est positif, vous levez un bras, deux bras, comme vous voulez. Qui a déjà passé, slash vécu, dans une école d'archi, slash une université ? Ok. Qui a déjà fait le ménage dans cet espace-là ? Ah, c'est bien. Okay. Qui connaît le prénom des gens qui font habituellement le ménage ? Ça va, vous êtes en partie. Ok, ça c'était un premier régime de questions. Moi, je me demandais maintenant qui est enseignant, enseignante dans ces espaces-là ? Et qui ressent que, à plein d'égards aujourd'hui, normes administratives, partenariats privés, il y a le, je sais pas quoi, l'horizon des possibles se resserre ? Ok. Reprise de savoir pour se présenter, c'est un peu la rencontre entre on va dire trois types de personnes, bien sûr on n'est jamais qu'une type de personne, mais on va dire des gens qui sont enseignants et qui trouvent que c'est compliqué dans des espaces qui sont ceux de la transmission de savoir aujourd'hui de tenter certaines choses. C'est la rencontre avec des gens qui ont pris le parti de plutôt déserter, bouger et de s'opposer radicalement à des projets d'aménagement. Donc, c'est des gens qui sont pris dans des ZAD ou des espaces comme ça. Et la rencontre avec plutôt des jeunes diplômés qui sortent et puis se disent qu'est-ce qu'on fait et n'ont pas envie de participer à la reproduction d'un aménagement du territoire ou de d'autres choses là-dedans. Donc, cette rencontre-là qui s'est faite suite à des rencontres qui s'appelaient Reprise de Terre, donc c'est un sous-groupe de Reprise de Terre, et l'idée de reprise, elle est importante parce que c'est pour capter qu'il y a des savoirs, enfin sur des territoires qui ont été pris. Cette prise-là, elle est étudiée par des historiens. C'est une prise, de la mécanique du capital sur certains territoires et qu'on a besoin de reprendre certaines choses. Voilà, ça c'est pour présenter en gros. Ça s'est formalisé l'année dernière dans un appel à organiser des chantiers reprises de savoir où on puisse mélanger des savoirs pratiques et des savoirs théoriques en égale dignité et justement pour pas hiérarchiser ce genre de savoir là. Et c'est moi qui fais le truc en fait. Ah ouais. Ah, sinon je suis habitué à parler quand le truc bouge. Bah c'est quoi ? Ah ouais, ok. Et du coup, l'année dernière, il y a eu 23 chantiers à différents endroits. Du coup, moi, je ne connais pas trop ces chantiers-là, donc je ne peux pas dire grand-chose. Mais par exemple, au Lantillère, c'est un quartier occupé face à la production d'un éco-quartier en béton à Dijon. Et bah, le quartier est toujours menacé. Et ils ont fait une mare à grenouilles, une mare de la métropole, s'appelait le projet. Et du coup, c'était l'idée de réinvoquer les savoirs naturalistes et de voir si les grenouilles viendraient. Et en tout cas, ça a été l'occasion pour plein de jeunes gens qui étaient naturalistes, qui venaient de sortir d'études en écologie, des choses comme ça, et qui sont en fait hyper déprimés, parce que c'est hyper déprimant. Et là, de se retrouver avec des gens qui étaient hyper déter à protéger ce quartier, ça a créé des choses super chouettes. Voilà. Et du coup, Reprise de Savoir, c'est pas du tout un... Moi, je suis le seul archi dans cette bande. Et donc, en fait, on s'en fout de l'architecture. Enfin, je veux dire, voilà, en pavillon d'Arsenal, on peut le dire. Et enfin, c'est pas un sujet, je veux dire. C'est le sujet, c'est comment on fait des choses ensemble avec plein d'autres gens. Et l'architecture devient une compétence qu'on met au service de ça. Mais voilà, peut-être c'est pas la peine que j'en dise plus. Regarde, il y a une autre slide. Il y a eu 23 chantiers, donc il y a plein de trucs. Il y a des étudiants de l'école d'archi de Nantes qui ont organisé une sorte de rando de la centrale de Brennilis à une autre centrale, donc une centrale nucléaire qui avait été abandonnée à une centrale à gaz qui est en projet. Et donc voilà comment on peut s'emparer de thématiques comme celle-là. Et donc on mélange, à chaque fois c'est l'idée de mélanger ouais, ces savoirs-là. Bon, hop, après c'est plus moi.
Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Chloé, je suis élève à l'ENSI Les Ateliers, je suis à la fin de mon parcours. Donc c'est une école de design, donc pas du tout en archi, désolée, qui est pas très loin, qui est dans le 11e. Et si je viens parler ici ce soir, c'est pour vous raconter l'ENSI fait le mur, qui est un mouvement étudiant qui a eu lieu en 2019 suite à la nomination arbitraire d'un directeur par nos tutelles. Donc je vais essayer de parler de ça. Maintenant, mais on était tous les élèves, enfin en fait c'était un mouvement étudiant, donc on était très nombreux et nombreuses à participer à ce mouvement. Pour résumer, il y a un processus de nomination qui a eu lieu à l'ENSI et un directeur a été nommé malgré les non-votes de notre conseil administratif. Et suite à laquelle un blocage de l'école a été initié par les élèves pendant une semaine. Puis il y a eu plusieurs manifestations qui ont eu lieu devant nos tutelles pour contester en fait la nomination de ce directeur. Plusieurs symboles aussi qui ont eu lieu lors de notre mouvement, notamment on a muré le bureau du directeur et on a construit un mur dans l'école pour symboliser notre contestation. Ça a été un mouvement qui a duré plusieurs mois, donc comme je le disais, il y a eu une semaine de blocage. Ensuite, on a transformé ce mouvement en étant l'occasion d'aller discuter de qu'est-ce qu'était l'ENSI, qu'est-ce qu'était être élève à l'école. Et donc on a organisé plusieurs rencontres autour du mur pour aller discuter de nos envies d'enseignement dans cette école, quels étaient les futurs souhaitables, etc. Petit à petit dans le mouvement, on a gagné la confiance et on a emporté avec nous les professionnels, enfin le personnel pardon, de l'école. On a organisé une seconde manifestation devant le ministère, enfin devant nos tutelles. Donc on est dépendant du ministère de l'Industrie et du ministère de la Culture. Et à ce moment-là, si mes souvenirs sont bons, la seule réponse qu'on a pu avoir de leur part était qu'il y avait des décrets et que du coup ils ne pouvaient pas changer cette nomination et que notre seule échappée était que notre directeur démissionne. Face à cette position-là, ça a été l'occasion pour nous de se réunir. On était l'ensemble de l'école, cette fois-ci non plus seulement les élèves, mais vraiment les élèves et le personnel totalement bloqués et un peu contraints d'animer des agoras. Non, mais c'est super comme moment collectif. Pour essayer de trouver une stratégie face à cette nomination. Donc ça c'était une photo précédemment donc des intervenants qui sont venus parler devant le mur. Pour finir sur la présentation juste du mouvement, parce qu'après il y a eu plein d'autres choses qui sont passées, mais en fait le mouvement il a fini par réussir parce que le directeur a posé sa démission à la fin de nos multiples négociations avec lui et avec nos tutelles. Une réussite pour ce mouvement. Cependant, il y a eu une suite dont je parlerai sûrement après. Voilà.
J'ai pas de slide. Oui, donc bonjour, bonsoir à tous. Moi, c'est Antoine. Donc, je suis membre de ce collectif qui s'appelle le GRAP. Donc, c'est le groupe de recherche action sur la production de l'espace. Je dois commencer par dire qu'on n'est pas un collectif d'architectes, même si on a été formé dans des écoles d'architecture. Aujourd'hui, la plupart de nous ne pratiquent pas le métier d'architecte et font autre chose. On n'est pas non plus une école buissonnière dans le sens où on ne propose pas un enseignement alternatif comme ceux qu'on a vus précédemment. Et donc bon, si on est venu à cette table ronde, parce qu'au départ, ce qui était proposé, c'était une forme de discussion, débat sur l'enseignement. Donc peut-être que ça va venir après ce petit tour de table. En tout cas, nous, on s'est constitué aussi autour de 2020 sur la base, on pourrait dire, d'une critique de l'enseignement de l'architecture, à la fois dans ses contenus et dans ses formats, et aussi sur une critique de la production architecturale contemporaine et également de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. On faisait le constat aussi qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace de réflexion critique dans notre champ, dans notre métier, que certaines grandes revues critiques, je pense à Criticat par exemple, avaient disparu, et que donc on se retrouvait un peu orphelin là-dessus, et qu'on avait besoin de recréer des espaces pour mener cette réflexion critique, donc pour produire des textes, en traduire, en relayer, organiser des événements aussi, des événements publics sous forme de rencontres ou de tables rondes ou de projections. Avoir un lien avec les ENSA, sous forme d'enseignement ponctuel ou d'enseignement régulier, et puis parfois venir en soutien à des luttes locales existantes, de différentes formes, luttes urbaines ou autres. Comme on n'a pas d'enseignement alternatif à présenter, peut-être, je ne sais pas, je te repasse le micro et on reprend sur un format plus débat ou...
Celui-là, si c'est bon, ça marche. Tu peux passer la slide d'après, si tu veux. Voilà, comme ça, on revient au début. Merci. Vous avez vu qu'on a choisi un panel assez varié, avec des expériences différentes, des statuts différents. C'était aussi volontaire. La première question que je voulais vous poser, c'était sur la question de comment on initie une démarche alternative. À quel moment est-ce qu'on passe à l'action? À quel moment est-ce qu'on bloque l'école? À quel moment est-ce qu'on se dit, allez, vas-y, on le fait, on organise ce workshop autogéré, on organise ce projet-là, notamment peut-être pour en inspirer certaines dans la salle. En tout cas, pour nous, il y a peut-être quelque chose d'essentiel et pour lancer la réflexion, c'est la question du désir, la question du plaisir, et d'avoir des formes joyeuses pour parfois lutter ou parfois juste faire différemment. Peut-être que l'école zéro, l'ENSI fait le mur ou n'importe qui, vous pouvez nous parler de ce moment-là où ça bascule, où on se lance dans l'action, dans le projet.
Oui. Comment ça marche ? Comme ça. Donc, comme l'a présenté Candice, l'école zéro, c'était d'abord un séminaire de réflexion sur la pédagogie dans les écoles d'architecture. Et alors, tu viens de parler de désir. On a subi un confinement. Et ce confinement, il nous a fait réaliser à quel point le lieu physique de l'école et le fait d'être ensemble étaient hyper essentiels dans notre pratique. Et l'école ne réouvrant pas avant l'été, enfin avant la rentrée suivante, ça s'est fait de manière assez spontanée. On a ressenti un besoin très fort d'organiser quelque chose ensemble. Et en fait, ça s'est fait à partir, on va dire, de certaines opportunités qui se sont présentées, d'avoir un site, d'avoir des gens motivés. Et l'école s'est montée en un mois, justement parce qu'il y avait ce désir qui était très profond. Disons qu'à ce moment-là, on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait. Je dois dire que, alors il y a beaucoup de choses que je vais te dire, mais en vérité je parle aussi un peu en mon nom parce qu'on est un public assez mouvant au sein de l'école zéro. On est une association avec plein de personnes très différentes. Toutes les personnes qui étaient là au début ne sont plus forcément là. Candice qui a présenté, elle est là depuis un an par exemple. Et donc je vais aussi parler moi de ce qui m'anime au sein de l'école zéro. Mais donc il y avait cette... On s'est rendu compte, je dirais, que en fait, l'école zéro, c'était vraiment très intéressant une fois qu'on l'a fait. Parce qu'une fois qu'on l'a fait, on s'est dit, mais on a fait un truc, c'est qu'on est allé à la campagne instinctivement, pas tout à fait instinctivement, parce que dans nos débats aussi, au sein du séminaire, quand on parlait de pédagogie, effectivement, on s'était bien rendu compte quand même que la pédagogie, elle était surtout développée dans les métropoles, au sein des écoles d'architecture, et qu'il n'y avait pas véritablement de réflexion fine et attentionnée, on va dire, sur les milieux ruraux. Et en y allant, en fait, on a rencontré plein de gens. Comme disait Candice, on fait des tables rondes avec des personnes qui vivent sur le territoire, qui l'administrent. On rencontre des gens qui vivent dans des fermes, qui nous racontent comment ils travaillent. Et on s'est dit, mais en fait, est-ce que c'est pas ça le vrai truc, c'est d'arrêter d'apprendre dans des écoles et finalement d'aller reproduire tel que ça se fait beaucoup aujourd'hui sur plein de sujets, reproduire des schémas un peu préconçus qu'on apprend en école. Et puis de dire, bah tiens, la mobilité, moi je connais, j'ai appris en école, alors qu'en fait, en milieu rural, ça n'a rien à voir. Enfin, il y a plein de spécificités territoriales partout. Et donc, voilà, on s'est dit que c'était ça qui était intéressant, qu'en fait, on pouvait surtout apprendre des personnes qui vivaient sur le territoire, et parce qu'elles avaient en fait une connaissance vraiment intéressante à partager. Et donc, voilà, c'est ça pour dire que tout ça, ça parle aussi de désir, effectivement, parce que notre désir à nous, je dirais aujourd'hui, en tout cas moi, mon désir au sein de l'École Zéro, c'est de continuer cette dynamique-là, de dire qu'il y a beaucoup à apprendre ailleurs, que ça ne se passe pas forcément dans les écoles, que c'est une question aussi de... Il y a beaucoup de spontanéité aussi, il faut se laisser, faut laisser la place à ça. Mais il faut aussi faire confiance à toutes les personnes et être attentif à ce qu'on fait aussi. Je dirais qu'il y a quelque chose d'important qu'on essaie de traiter au sein de l'École Zéro, c'est d'avoir une critique permanente sur ce qu'on fait, sur où on va, sur comment on arrive sur le territoire. Ça ne marche pas toujours. Parfois, on se rend compte qu'on est un peu dans un modèle d'entre-soi où on est ensemble et en fait le contact avec les personnes n'est pas si facile que ça. Ou alors inversement, il y a des personnes qui attendent beaucoup de nous, on n'arrive pas trop à le donner, etc. Mais donc ce serait ça en fait, ce serait d'essayer d'avoir, de connaître le mieux possible toutes les spécificités territoriales, la France d'un point de vue général, parce que c'est par cette connaissance-là qu'on arrivera à planifier finement les lieux et qu'on arrêtera à faire une architecture aussi, répétitive, déconnectée des réalités territoriales, etc. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, je suis un peu partie dans tous les sens. Peut-être que Clément va compléter.
En deux mots, juste, pour répondre à la question sur comment on initie un mouvement. Certes, il y avait des désirs, mais ce n'était pas tout rose non plus. On était dans une situation de crise vraiment critique à l'école de Paris-Malaquais, parce que c'est l'école où il y a le moins de places par étudiant. Et déjà, pendant nos études, c'était impossible de travailler dans une ambiance d'école. C'est-à-dire chacun travaillait plutôt chez soi, enfin, c'était vraiment pas très on ne se sentait pas porté par une ambiance d'école. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà on était dans un climat qui est le même qu'aujourd'hui, de réforme des retraites, enseignants pas payés, enfin c'était déjà le beans complet dans le contexte dans lequel on était. Et puis en plus, on nous est tombé dessus l'annonce de la démolition d'un de nos bâtiments. Et donc, ça faisait encore moins de mètres carrés. Et donc là, c'est vrai qu'il y a eu un événement un peu déclencheur où, à un moment donné, c'était un peu trop, quoi. Et je pense que ça fait partie pas mal du mouvement d'initiation de l'École Zéro. Quand on est dans une crise, on cherche à y répondre. Voilà.
Pardon, ça marche pas. Pour notre part, à l'ENSI, c'était du coup vraiment un mouvement en interne, mais ce qui a permis d'initier le mouvement, c'est que déjà il y a une mobilisation, il y a une culture de la transmission et de la mobilisation qui est très forte à l'ENSI. Et moi, quand j'ai participé au mouvement, ça faisait qu'un an que j'étais élève, et même quand on arrive, on sait ça, on sait qu'il y a eu d'autres mouvements précédents, d'ailleurs souvent liés à la direction. Et ce qui nous a permis d'initier en fait ce mouvement, donc déjà il y a ça qui fait que tous les élèves se sentaient concernés et savaient que c'était possible en fait de faire un mouvement, de faire des mouvements qui fonctionnent, mais également le fait que c'est une école dans laquelle les élèves ont toutes les portes ouvertes pour s'impliquer, notamment dans l'administration. Et donc il y a un groupe d'élèves élus en fait qui, donc c'est un peu les délégués, qui ont participé à chaque étape du processus de nomination et donc qui avaient tous les tenants aboutissants de la façon dont ça s'est passé cette nomination et de des règles qui n'ont parfois pas été respectées, de toutes ces petites nuances qui sont invisibles généralement aux étudiants et qui là l'étaient par ce groupe et qui eux sont venus alerter tous les autres élèves. On a aussi une culture de l'agora et du coup les espaces s'y prêtent aussi à l'ENSI. On a dès l'entrée des très gros espaces qui font que quand il y a une agora, si on veut rentrer chez soi, souvent on s'assoit et on reste à l'agora, mais voilà.
Super, merci. Si on parlait du désir, c'était aussi parce que c'est lié à la deuxième question que je voulais vous poser, c'est qu'on voit qu'on travaille tous dans des temps forts, que ce soit le temps fort du festival, le temps fort du workshop, le temps fort du blocage. Nous, on se pose une question qu'on voulait vous partager, c'est comment on tient dans le temps aussi, comment on tient dans la durée, comment on fait en sorte que les expériences se prolongent. Et nous, par exemple, dans nos projets chez ETC, on a cru qu'on allait arriver à mobiliser le public spontané de la ville dans certains projets d'espace public, etc. On en est beaucoup revenu depuis longtemps maintenant. Mais en tout cas, on voit que c'est cette question indispensable du relais local et de comment est-ce que ce qu'on initie arrive à outiller une communauté sur place, que ce soit celle des étudiants eux-mêmes et des étudiantes eux-mêmes au sein de l'école, que ce soit peut-être celle liée au chantier de reprise de savoir, ou aussi Bellastock, vous, d'une suite de festivals, comment on s'inscrit dans le temps long, voir comment dans cette nouvelle école que vous êtes en train de mettre en place, comment on arrive à justement travailler dans le temps long en revenant sur les lieux. Donc je vous pose la question du coup sur comment on fait pour tenir et pour faire en sorte que ces étincelles continuent de brûler, pour rester à la thématique de ce soir.
Je suis embêté parce que mon cerveau il marche avec un temps de décalage et en fait je voulais répondre à la question d'avant, mais ça me permettra peut-être de répondre à celle-là. À savoir que moi je voulais juste dire un truc sur le plaisir, juste un truc, faut pas être dupe que depuis 50-60 ans, l'université, les écoles d'archi ont, si on fait le constat ensemble que il y a une sorte de ravage écologique et social, c'est des espaces qui ont accompagné ça, c'est-à-dire que les savoirs ont accompagné ça et qu'on a intégré à plein d'égards des trucs tristes. Une trame de l'économie, plein de choses qui font qu'on peut devenir des sortes d'acteurs de cette destruction. Aujourd'hui, on aimerait bien se dégager de ça. Donc, juste rappeler, en parallèle de la joie qu'on peut avoir à faire des choses autres, militantes, il y a aussi toutes les lignes de tristesse qui traversent le fait qu'on accompagne l'économie dans la destruction du vivant. Et pour le temps long, en tout cas, le parti pris de reprise de savoir, ça a été de s'appuyer sur une multitude de lieux qui ne sont pas les institutions scolaires, mais une multitude de lieux qui sont en ville ou à la campagne et qui se saisissent de questions qu'on pourrait nommer de l'autonomie. C'est un peu ce que je vous ai dit sur faire le ménage, mais ça pourrait être faire à manger. C'est-à-dire comment on s'intéresse aux conditions d'existence qui sont les nôtres et comment on les évacue pas comme quelque chose qui est hors de nos réflexions et que finalement une école c'est une sorte d'usine à diplômés mais c'est pas un lieu de vie et du coup nous on fait le parti pris de s'appuyer sur des gens qui avaient déjà engagé dans leur vie des lieux de vie et il y a plein d'endroits, on les connaît pas forcément, ça dépend des liens, c'est pas des lieux qui sont sur internet, il y a plein de lieux comme ça qui existent et il y en a de plus en plus. Et du coup, le parti pris de reprise de savoir, ça a été de dire, si on va là-bas avoir, par exemple, une discussion philosophique sur l'écologie de la rivière, on ne peut pas aller dans un espace comme ça, qui sont forcément des espaces assez précaires, sans se poser la question matérielle de la subsistance. Et donc, si on va avoir une sorte de discussion philosophique dans un espace comme ça, on ne peut pas juste y aller comme consommateur et on se casse. Et du coup, les chantiers reprise de savoir, c'est cette double idée qu'on doit continuer de faire école, mais on doit se poser la question de ces lieux et d'un appui matériel à ces lieux. Donc à chaque fois, les chantiers, c'est des sortes d'appui à la subsistance de ces lieux. Donc ça peut être des chantiers, mais ça peut être, par exemple, un chantier, ça a été je ne sais pas si vous connaissez le mouvement des soulèvements de la terre qui, en ce moment, prépare la grosse manif contre les méga-bassines dans le Marais Poitevin. Un des chantiers cet été, ça a été de faire la cantine, d'apprendre à faire à manger, pour 200 personnes qui faisaient un week-end de préparation à ce genre de truc. tout en l'après-midi parlant des victoires et des défaites du mouvement écologiste depuis 50 ans. Et en tout cas, c'est le parti pris d'appuyer des espaces qui veulent durer dans des territoires et qui sont des espaces qui sont hors des institutions qui, elles, n'arrivent pas à transitionner ou à faire comme ça parce qu'elles sont bloquées dans tout un tas de logiques qui ne permettent pas ça. Donc nous, on a parti pris plutôt d'appuyer ces lieux-là.
Pour reprendre, donc pareil, mon cerveau marche peut-être un peu à l'envers, mais en tout cas pour durer, en tout cas, et tout à l'heure on parlait de désir, je pense qu'il y a quelque chose qui est très fort et qui se ressent pas trop dans l'année, parce que mine de rien, on a nos sociétaires, Bellastock, parce qu'on est une coopérative, mais on est beaucoup moins entouré que lors du festival vraiment en juillet, où là c'est un temps qui est à la fois extrêmement éreintant et à la fois extrêmement galvanisant. C'est qu'on a un écosystème. En 17 années, Bellastock a rassemblé autour des festivals, mais aussi des réflexions, en rassemblant aussi des filières et en se posant certaines questions, on réussit à rassembler un écosystème qui porte aussi beaucoup de choses et qui nous pousse, nous aussi, à porter beaucoup de choses. Et sur le temps du festival, par exemple, je pense que pour nous, c'est important déjà de leur donner une place aussi, parce qu'ils existent, et donc il y a plein d'autres collectifs qui se sont créés, il y a eu des ramifications vraiment de Bellastock assez loin, et on le voit avec le CAP aujourd'hui, il y a aussi une importance de donner de la place aux gens qui habitent ce territoire, et en effet on a pu faire la critique, comme on en parlait tout à l'heure, d'un festival en quelque sorte peut-être hors sol, qui arrive quelque part, Qui grandit en 4 jours, puis d'un coup qui repart en laissant le moins de traces possible. Ben, avec le CAP, le but, c'est aussi de permettre à des gens qui vont habiter le territoire plus longuement que nous, et après le festival et avant le prochain, de se dire aussi ce lieu, il peut vivre et exister autrement que par le festival, sur un temps plus long, avec d'autres problématiques qui sont peut-être très différentes des nôtres. Et avec l'appel à projet, notamment, c'est ce qu'on essaye aussi d'insuffler, c'est d'avoir un temps de réflexion beaucoup plus collectif, plus long, et qui sert à la fois au festival, mais qui sert aussi à des démarches qui sont de tout un chacun, habitant, visiteur, et pas forcément initié ou constructeur en architecture.
Côté École Zéro, on est encore assez jeune, entre guillemets, enfin, ça fait que 3 ans, donc durée, je ne sais pas si on estime qu'on a duré à partir de 3 ans d'existence, mais en tout cas, je pense que c'est un peu ce que tu disais, Zoé, sur cette question de, on arrive dans un endroit pendant un temps donné, et après on part, et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, la manière, comme l'École Zéro, c'est un collectif, on va dire, qui n'est pas structuré en tant que tel, mais qui a un noyau dur de personnes, et puis c'est en fait finalement assez ouvert en termes d'organisation. Il y a cette idée aussi de co-organiser, même s'il y a toujours des personnes qui vont être plus ou moins motrices, mais il y a vraiment cette idée aussi d'être ouvert
le plus horizontal possible, et de laisser la place aussi à l'imprévu, et donc de créer aussi dans cette école qui dure une semaine, d'avoir cette idée aussi que tout n'est pas complètement organisé. On crée un cadre qui permet à 70 personnes de vivre ensemble et que ça se passe bien. Mais qu'en même temps, c'est aussi cette place laissée à rien au début qui crée aussi ces rencontres et qui vont faire qu'en fait, ça dure. Et même si le territoire, ça sera peut-être une expérience à un moment, mais qu'au moins, il y a une forme de continuité qui se crée aussi avec les personnes qui sont venues à l'École Zéro et qui se recroisent dans d'autres cadres. Et donc, il y a un peu cette idée-là aussi de cette durée par l'expérientiel. Et tu parlais tout à l'heure de plaisir. Je pense qu'il y a ça aussi. Enfin, finalement, c'est aussi de créer de l'ensemble et de créer des moments un petit peu en commun qui permettent aussi de se rappeler, en fait. Et je pense que ça, c'est aussi une thématique qui est importante dans cette idée aussi de partager des moments aussi pour durer et que ce ne soit pas juste quelque chose de simplement projeté, quoi. Et je pense que le faire à cet endroit-là, le faire ensemble et collectivement, et la transmission aussi d'expérience, permet en tout cas de durer.
Ouais, et vous avez aussi un travail d'édition qui, à mon avis, va dans ce sens-là, de transmettre, d'arriver à mettre en forme ça dans des objets imprimés qui aident à diffuser. Mais on va passer à la question d'après, où nous, pour cette question de comment durer, on voulait aussi parler de la question des alliances, comment on s'allie aussi. Et notamment, on ne voudrait pas que le message de ce soir soit que il faut brûler les écoles et les enseignants avec, loin de là. L'idée, c'est plutôt de voir justement qu'est-ce qui se fait d'autre aussi dans les écoles. Ça bouge énormément. Il y a eu un colloque à Grenoble qui a été piloté par deux enseignantes de Grenoble, Théa Manola et Roberta Gelli, qui ont fait un travail génial d'identifier où il y avait des pratiques alternatives en France en ce moment dans les écoles d'architecture. Et à ce colloque, il y a eu un drôle de sentiment, c'est que tous les enseignants et les enseignantes qui sont venus avaient l'impression d'être seuls et isolés dans leur coin, et finalement, ensemble, de se rendre compte qu'ils formaient peut-être un paysage, et en tout cas quelque chose qui se tenait et qui avait quelque chose à raconter. Donc la question d'après, c'est plutôt, où est-ce que vous voyez des alliances? Est-ce que vous voyez des alliances à l'école? Je crois qu'Antoine, tu as un certain pied à l'école, tu pourras peut-être nous en parler. En tout cas, de voir comment est-ce que ce qui se fait d'intéressant en dehors des écoles a probablement à voir et à faire avec ce qui se fait d'intéressant dans les écoles, et que ce qui peut nous réunir et d'être intéressant, ce n'est pas de rester avec nos étiquettes de « moi je suis prof, moi je suis étudiant, moi je suis architecte, moi je suis machin », mais de se réunir finalement autour des valeurs politiques et de... Le degré de puissance politique qui peut nous réunir. Donc peut-être, Antoine, nous dire deux mots sur ton rôle, et peut-être Thibaut aussi revenir sur le fait que on a l'impression que parfois, reprise de savoir, ça peut être un truc un peu très intello, et que vous vous retrouvez parfois aussi à devoir faire de la charpente à des doctorants. Ça n'a pas l'air d'être toujours évident. Peut-être que nous dire un mot aussi sur ce lien entre le fait qu'il y a des enseignants et des enseignantes dans votre groupe, et de voir comment il y a des alliances qui se jouent à ce niveau-là, quoi.
Je commence. Oui, donc nous, au sein du GRAP, on n'a pas forcément tous la même position à l'égard de l'enseignement et des écoles. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans les écoles, ou qu'est-ce qu'il faut mieux faire plutôt en dehors des écoles, on n'est pas forcément tous d'accord. Bon, on fait le constat que les écoles sont des grosses institutions qui sont un peu paralysés par une forme d'inertie assez forte, et qui fait que parfois c'est un peu désespérant, on aimerait que les choses bougent plus vite. On constate aussi que voilà, c'est là où il y a quand même des centaines, parfois des milliers d'étudiants, c'est aussi là qu'il y a des moyens, et que donc on jouit quand même de conditions assez favorables pour débattre, et le mouvement qui est en train d'émerger en ce moment dans les écoles, enfin depuis déjà deux semaines, prouve que, à mon avis, les écoles ne sont pas des lieux à déserter, bien au contraire, et plutôt des lieux à investir. Mais bon, après on va passer la parole aux représentants, représentantes du mouvement, qui nous expliqueront un peu ce qu'ils font et ce qu'ils ont pensé de la soirée. Juste pour revenir sur cet imaginaire un peu déserteur de voilà, il faut sortir des écoles pour faire des trucs plus expérimentaux, plus concrets, etc. Là, je parle plus à titre personnel, mais je pense qu'il faut faire attention un peu avec ce genre de discours, même si ça permet parfois de mener des expérimentations très intéressantes. Ça peut aussi être détourné en fait par des logiques, néolibérales, dans le sens où si on regarde un peu ce que sont ces écoles alternatives ou ces écoles buissonnières, c'est souvent des structures associatives qui reposent sur du travail bénévole, du travail gratuit. Il n'y a pas toujours de discours très critique, en fait. Tu parlais des valeurs politiques, mais elles ne sont pas toujours audibles. Par contre, il y a beaucoup de com, il y a un esprit un peu start-up souvent. Moi, le risque que je vois là-dedans, c'est que ça fasse un peu diversion par rapport aux problèmes systémiques des institutions, notamment les ENSA. Voilà, c'est des grosses institutions du service public qui sont en souffrance parce que justement les politiques néolibérales les fragilisent d'année en année. Et donc le risque voilà, de certaines écoles, à mon avis, alternatives, c'est d'attirer beaucoup l'attention et de faire un peu diversion sur les problèmes structurels. Donc moi, je pense qu'il faut rester ou retourner dans les écoles. Les étudiants sont... ne sont pas ce qu'on a tendance à croire parfois, des consommateurs passifs, mais au contraire, c'est plutôt eux en ce moment qui réveillent les enseignants. Et donc, moi en tout cas, le mouvement que j'ai vu émerger depuis 2 semaines là, me redonne complètement foi dans les écoles d'architecture et dans ce qu'on peut y faire.
Moi, c'est ça, mais je suis aussi un étudiant de l'ENSI, j'ai aussi participé à l'ENSI Fait le Mur. Nous, je pense qu'on a tenté un peu 2 stratégies d'alliance. La première, ça a été, à la fin du mouvement, l'envie de continuer l'espèce de moment inédit de réflexion sur l'école, de rencontre avec tous les acteurs et actrices de l'école. Et donc, on est rentré en fait, dans le cadre pédagogique de l'école. La souplesse de l'ENSI a permis en fait, de transformer un des ateliers de projet, donc, qui sont les projets de semestre, en un projet de réflexion avec une dizaine d'étudiants sur la gouvernance de l'école, comment poursuivre ces questionnements, etc. Et ça a donné lieu à des workshops, à plein de propositions qui n'ont ensuite jamais été appliquées. Alors, il y a l'excuse du Covid, évidemment, mais il y a aussi en fait, un vrai manque de volonté de notre direction et surtout le constat qu'en fait, on a... Et oui, pardon, il y avait aussi dans les projets la co-construction avec le ministère d'un nouveau processus de nomination de direction. En fait, on s'est heurté au-delà du Covid, surtout au fait qu'on n'avait pas réussi à construire une lecture des rapports de pouvoir qui étaient en jeu, et qu'en fait, on est face à des directions qui n'ont pas les mêmes postures que des étudiants et le personnel qui sont les travailleurs et travailleuses de l'école, que le ministère qui n'a pas les mêmes intérêts, surtout dans un contexte de libéralisation de l'enseignement supérieur, et qu'en fait... On était bien mignons avec nos méthodes de co-conception participative à faire une réunion de design thinking avec le ministère, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Et en fait, on s'est fait un peu marcher dessus. Et quelques années après, notre directrice a aussi récupéré le mouvement en lançant un nouveau projet, ENSI Reboot, pas du tout co-construit avec les étudiants, qui là aussi a donné à peu près rien, à part maintenant une crise dans notre école. Et du coup, il y a une deuxième alliance qu'on a fait un peu plus tard, entre autres avec des gens issus de l'ENSI Fait le Mur, c'est de décider de se constituer en syndicat étudiant et de se dire qu'en fait, à un moment, il fallait qu'on s'allie entre nous d'abord, qu'on s'organise concrètement pour construire, pour sortir aussi des alternatives et des projets temporaires et des petites bulles et construire une organisation pérenne qui est capable de tirer les conséquences de ce qu'on vit dans ces mouvements extrêmement forts des blocages, des occupations, pour en fait, politiser les choses, comprendre les rapports de pouvoir, les tenants et les aboutissants de ces choses-là, et comprendre que oui, en fait, l'enseignement supérieur il est en proie à une libéralisation croissante depuis une trentaine d'années, que le projet c'est clairement de livrer, et particulièrement les écoles de la culture et de la création au privé peu à peu, et que en fait, à un moment, la co-construction, il va aussi falloir aller dans le rapport de force. Pas toujours, hein, mais il faut aussi qu'on sache investir ses moyens, et je pense que ça passe aussi par s'allier avec les autres étudiants et les autres travailleurs, et sortir aussi de notre particularisme d'être des étudiants en art, des étudiants en design, des étudiants en architecture, et de parfois pas savoir investir les moyens de lutte et de mobilisation qui ont montré leur efficacité dans le reste en fait, de la société. Voilà, donc il y a plein d'alliances à tisser entre nous, mais pas que. Donc on se retrouve à la Concorde après, quoi.
Ouais, sur le peut-être moi mon expérience depuis 10 ans elle est plutôt d'être une sorte de déserteur, et en même temps je pense l'idée qu'il y aurait un en dehors au monde je sais pas comme l'ISTRAM, je pense c'est une sorte d'idée un peu bizarre quoi, il y a pas vraiment d'en dehors au monde comment il se déroule, et j'ai l'impression que voilà, c'est hyper important de, enfin ce qu'on propose avec Faut Savoir, c'est-à-dire on a besoin d'expériences qui sont autres, et ça il faut les vivre, je pense, par exemple, si on est étudiant en architecture, on a besoin d'expériences avec d'autres gens qui ne sont pas des architectes, et de mener plein de choses ailleurs. Et je pense que je suis passé ce matin à l'école de Belleville, et c'est, je ne sais pas trop ce que c'est le statut, mais c'est fermé, en tout cas, c'est différent que d'habitude, parce que c'est en lutte. Et du coup, ça fait une table ronde où tout d'un coup, c'est des étudiants qui l'ont organisé et tout. Donc, c'est des moments qui sont quand même hyper intéressants dans la construction de ça veut dire quoi, être, je sais pas quoi, dans un monde où il faut qu'on se pose des questions d'une autre manière et tout. Et donc, ces moments-là sont hyper importants. Et plutôt que moi, la désertion serait plutôt la question du refus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut qu'on sache refuser individuellement et collectivement. Parce qu'il y a des choses, il faut bien qu'on change de monde. Donc, c'est pas juste on change, on transitionne, ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est non, il y a des trucs qu'on refuse. Et ce refus-là nous permet d'affirmer ces refus, nous permet plein de choses. Et moi, les aventures de lutte que j'ai vécues, depuis ces refus, plein de choses se constituent. Et il y a de nouvelles alliances qui se font, des nouvelles compositions, où on va pouvoir, je sais pas, un projet d'aéroport ne va pas se faire ici, un projet de Central Park ne va pas se faire là. Tout ça, c'est des moments joyeux, compliqués, mais en tout cas, c'est des écoles. C'est des moments où on apprend énormément de choses. Et du coup, souvent, on va faire ah, c'est tout, les anti-tout, nanana. Au-delà de ça, c'est des immenses écoles pour apprendre des choses. Et peut-être juste évoquer, depuis Reprise de Savoir, là, nous, on revient d'une tournée, on est allé à Saclay, Grenoble, Toulouse, rencontrer différentes gens pour une hypothèse qu'on a qui s'appellerait l'autre rentrée, avec l'idée que, en fait, s'il y a un endroit, un moment de la reconduction du système, bah, c'est bien la rentrée. En même temps, c'est un moment où on n'a pas de temps. Et donc on est allé voir cette hypothèse en rencontrant différents gens, donc, par exemple à Toulouse l'Atécopole, c'est des profs assez intéressants de sciences dures et de sciences légères qui se croisent sur des questions écologiques et bon c'était plutôt compliqué parce qu'en fait les profs en fait, ils n'ont pas le temps, ils sont très contents mais ils n'ont pas le temps et voilà. Et du coup cette hypothèse de l'autre rentrée on va voir comment elle se fait sans doute à Saclay et tout c'est une hypothèse de travailler de l'en dehors que nous on peut représenter avec des gens qui sont dedans en voyant plutôt un truc de lisière et une certaine forme d'offensivité par rapport aux logiques néolibérales qui font que par exemple à Saclay aujourd'hui il y a des Total ou des LVMH qui veulent rentrer dans ce genre de campus et qu'en fait il faut se motiver enfin, et ça a déjà été le cas parce qu'ils ont LVMH va pas s'installer là-bas. Voilà.
Peut-être une dernière remarque et après il y a peut-être des réactions, des questions dans le public. Du coup, peut-être quelques dernières remarques et puis.
Okay. C'était juste pour rebondir un petit peu sur ce que vous avez tous dit sur cette question de, je suis d'accord, de peut-être de récupération aussi de ces espaces-là. Je pense qu'il y a avant tout ça permet de montrer un autre possible et de vivre justement ces expériences autres qui peuvent se dire ah mais quelque chose d'autre est possible et aussi de donner des idées pour justement quand on retourne dans l'institution et au sein de l'école de se dire bah en fait peut-être que je peux voir les choses autrement et peut-être que justement je peux refuser et que peut-être que l'apprentissage, le fait d'aller à l'école, c'est pas ça la finalité, enfin peut-être que l'école n'est pas la finalité mais c'est plus se servir de l'institution comme un outil, comme un autre, et je pense que ces expériences-là aussi qui se développent sont justement à voir comme d'autres outils qui viennent compléter notre formation, différents moyens d'apprendre et qui viennent aussi nourrir peut-être notre vision plus critique de l'apprentissage que celle de cette espèce de ligne un peu très, très, très droite où on se dit, voilà, je suis en maternelle, je vais en primaire, et puis en fait c'est un peu une ligne droite, on ne sait pas trop, la finalité c'est d'avoir un emploi, mais pour quelles raisons, on ne sait pas. Et du coup, c'est peut-être ça aussi de se dire que pour moi, c'est des espaces qui sont vraiment complémentaires. Et juste par rapport à la spécificité de l'école zéro, ça a commencé par le séminaire zéro, donc au sein de Malaquais, dans le cadre d'une lutte, justement, d'une lutte contre une décision estimée injuste et complètement improbable, puisque c'était la démolition d'un bâtiment pour un privé qui était François Pinault. Et du coup, le séminaire zéro est né, ensuite il s'est transformé en école zéro, et après, en fait, là aujourd'hui, l'ENSA Malaquais, enfin le séminaire zéro a été relancé. Donc c'est là où on se dit que justement ces espaces-là, au début, quand ils ont commencé, il n'y avait pas nécessairement une volonté que ça soit pérennisé, mais il s'avère qu'en fait, c'est rien que le fait que ça ait existé et que des personnes s'en soient. Les réutiliser en fait comme justement lieu de réflexion, et ça me faisait penser un petit peu à ce que disait la personne de l'ENSI en fait sur cette importance aussi de savoir que c'est possible, et tout cet historique en fait au sein des écoles d'interventions qui sont arrivées et de choses qui se sont passées permettent aussi aux étudiants et aux personnes en tout cas de cette institution de savoir que voilà qu'une action est possible quoi.
Merci. Vous vouliez réagir rapidement ou on passe aux questions ? Ouais ? Une petite dernière et après on passe aux remarques du public.
Pardon. Par rapport à l'école zéro, moi je partage totalement ce qui a été dit et c'est des sujets qui nous concernent énormément parce qu'effectivement, On est parti de l'école zéro, on est allé ailleurs. On se substitue absolument pas à l'école, on la défend absolument. On défend l'école publique corps et âme. Et on vient vraiment en complément en été. Et surtout, je tiens à préciser, effectivement, par rapport à ces questions de logique marchande qui sont très présentes, que c'est des choses auxquelles on a été confrontés et qui posent des problèmes parfois parce qu'effectivement on voit un groupe d'étudiants et on se dit ok ces étudiants super ils vont nous refaire notre grange parce que ça tombe bien en plus on est des néo-ruraux, on vient de s'installer, on a envie de refaire une grange donc c'est top, de la main d'œuvre gratuite c'est super. Sauf que c'est vraiment pas l'idée de l'école zéro et on met un point d'honneur à ne pas rentrer dans des logiques marchandes comme celle-ci. Et par ailleurs, juste pour l'aspect politique, on ne se définit pas particulièrement comme une association politique, mais néanmoins, et là je vais parler encore une fois à titre personnel, je dirais qu'aujourd'hui il y a une division sociétale qui est énorme d'un point de vue politique. Il y a une idée reçue aussi du monde rural de gens qui sont des ploucs, qui sont des gens qui votent FN, et que d'une certaine manière, la démarche d'aller sur un territoire comme ce, enfin sur des territoires en milieu rural comme cela, et de juste dire on veut rencontrer tout le monde, on ne va pas rester entre soi, on essaie de ne pas le faire, en tout cas on ne va pas que rencontrer des gens qui correspondent exactement à qui on est, ce qu'on fait déjà, mais on peut aussi aller voir un agriculteur en conventionnel pour qu'il nous raconte ce que c'est que ses conditions de vie, de travail, etc. Ça, pour moi, c'est un truc qui aujourd'hui fait un peu aussi la différence dans l'apprentissage et de ne pas rester dans des logiques juste de se dire on arrive, on sait mieux que vous, on sait ce que c'est que l'écologie, on va vous dire comment vous devez faire de l'agriculture, on va vous dire comment vous devez faire ci et ça. Voilà, juste, je voulais préciser ça. Ouais.
Merci.
Je me permets de... Bonsoir. Je fais aussi partie du GRAP comme Antoine, je m'appelle Jeanne. Et j'avais juste envie d'ajouter une toute petite chose à cet enchaînement de réflexion sur les alliances, en disant que plusieurs fois dans les prises de parole, là, on n'a pas pu parler d'alliance sans parler de rupture, ça allait ensemble. Parfois ça n'allait pas ensemble et je considère que c'est un problème et du coup j'avais juste envie de dire ça, que je pense qu'on ne peut pas penser la question des alliances sans penser la question des ruptures et je pense que c'est un peu un problème récurrent dans les pratiques des dits collectifs d'architectes et c'est ce qui a mené cette floraison de collectifs à devenir parfaitement intégré au fonctionnement et à enchaîner les collaborations avec les métropoles et a pu, enfin en fait je pense qu'aujourd'hui on peut dire 15 ans après le début de ce truc, il n'y a plus grand chose d'alternatif, c'est bon, c'est un truc qui est rentré dans les occupations temporaires, il y a beaucoup, et je pense que quand c'est devenu comme ça, c'est pas tous les collectifs, c'est pas machin, mais c'est beaucoup. Et quand c'est devenu comme ça, c'est quand on a commencé à oublier la question de la rupture et quand on a commencé à justement faire diversion avec en fait cette nécessité de faire rupture avec beaucoup de choses. Et ça, je pense que en restant dans les ENSA ou en étant en dehors dans les ENSA, des ENSA, c'est pas la question, mais juste continuer à nommer les choses avec quoi on est en rupture, c'est hyper important. Ça n'a pas énormément été fait ce soir, ça a été un peu fait. Et en fait, parce que sinon, on ne sait pas ce qu'on buissonne, quoi. En fait, si on nomme pas pourquoi on buissonne, quoi. En fait, contre quoi, en fait, on est. Voilà. Ça a été un peu dit. L'aménagement capitaliste, l'industrie du BTP, tous ces trucs avec lesquels on est en prise, en fait, quand on est dans le secteur de l'architecture, quoi. Même le salariat, les manières de travailler, enfin voilà. Voilà. Merci.